France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, au cours des siècles, l'Europe et l'Asie se sont souvent combattus. Les deux continents ont lancé à plusieurs reprises l'un contre l'autre d'immenses guerres. La première a été la guerre de Troie, quand une gigantesque armée grecque, réunissant toutes les villes de Grèce, a débarqué sur la plage de Troie en Asie et a mené une guerre impitoyable de 10 ans contre cette grande ville fabuleuse. Troie était aidée dans sa résistance par une foule d'alliés venus de toute l'Asie. Homère et de très nombreux poètes ont chanté cette guerre et la victoire finale des Grecs contre les Troyens.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Plusieurs siècles plus tard, une grande offensive est partie en sens contraire, depuis l'Asie vers la Grèce. Une masse phénoménale de princes, de soldats, venus de nombreux peuples asiatiques différents, était commandée par le grand roi de Perse. Ce roi pensait pouvoir submerger la Grèce. À 2 reprises, la Perse a été vaincue, sur terre, à Marathon, puis sur mer, à Salamine. Pourquoi tant d'animosité? L'Europe et l'Asie étaient, selon certaines légendes, 2 sœurs. Elles étaient toutes 2 filles du dieu Océan et de la déesse Téthys, un couple divin des origines, extrêmement fécond et généreux, très favorable envers les humains. Parfois, le 3e continent, l'Afrique, que les Grecs appelaient la Libye, faisait aussi partie de la famille. Qu'est-ce qui a pu opposer à ce point les 2 sœurs, Europe et Asie? D'où est venue la rupture familiale? Y avait-il une grande différence de nature entre ces 2 grandes terres et avec la Libye au sud? Les hommes et les femmes étaient-ils vraiment différents selon la région du monde où ils habitaient? Les Grecs anciens pensaient plutôt que non. L'humanité était une et variée selon les situations, selon la chaleur du soleil ou le froid des glaces, selon qu'on était en pleine terre ou au bord de la mer, selon les régimes politiques que l'on adoptait, royauté, gouvernement d'une noblesse ou démocratie. Malgré ces différences, on n'arrêtait pas de circuler, d'échanger, de faire la guerre éventuellement, de s'unir. L'humanité ne devenait réellement différente que lorsque l'on atteignait les bords lointains, extrêmes du monde. Là, on pouvait rencontrer des humains qui étaient complètement autres, bizarres. Des voyageurs avaient vu ou cru voir aux limites de la Terre des peuples étranges, improbables, parfois monstrueux. Peut-être qu'ils en avaient simplement entendu parler. Si on allait loin vers l'Est, on risquait de tomber sur des êtres vraiment surprenants. On rencontrait, par exemple,
les Arimaspes, troupes à pieds de chevaux, nantis d'un œil unique, habitant sur les bords du fleuve Pluton, dont le cours regorge d'or. Ne t'approche pas.
À l'intérieur de ces limites, plutôt fantasmagoriques, le monde connu, parcouru, n'était pas divisé en blocs bien distincts, séparés, chacun avec son identité bien à soi. Les Grecs ne divisaient pas les habitants de la Terre en Asiatiques, Libyens, pour dire les Africains, ou Européens. Ils ne se donnaient pas cette peine. Ils étaient plus binaires, plus simples. Et disaient qu'il y avait eux, les Grecs, les Hellènes, comme ils s'appelaient eux-mêmes, et tous les autres. Ces autres étaient les barbares, à savoir des gens qui parlent sans qu'on les comprenne, qui balbutient, qui émettent des sons disgracieux, confus. La langue des barbares passait pour être indiscernable. On n'y reconnaissait rien. Balbutiant, qui dit bar, 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 est le sens premier du mot barbaros, qui est une onomatopée, une imitation de ceux qui parlent mal. Il était souvent péjoratif et pouvait dire grossier, balourd. Dans ce cas, des Grecs eux-mêmes pouvaient être traités de barbares. Mais pas toujours. Le mot barbare pouvait noter seulement un état de fait et désigner des gens qui ne parlent pas comme eux, les Grecs, mais semblent bafouillés.
La première occurrence du terme dans la littérature grecque, c'est chez Homère?
C'est chez Homère, ça doit être dans l'Iliade, et c'est d'abord sous la forme d'un adjectif composé.
Roger Paul Droit, philosophe.
Il s'agit des Cariens, qui sont une des ethnies qui est avec les Troyens. C'est un peuple qui aujourd'hui vit dans l'actuel sud de la Turquie, et dont Homère dit ils sont barbarophones. Barbarophonon, dit-on, voilà, un mot composé. Et Strabon, un commentateur dans sa géographie tardif, explique qu'il faut vraiment entendre ça comme une onomatopée.
Mais cette différence de langage n'était pas une raison pour leur taper dessus et leur faire la guerre. Si les autres, tous ceux qui n'étaient pas grecs, ne savaient pas parler clairement, cela n'empêchait pas de les fréquenter, de les connaître, d'apprendre leur langue, de les respecter, même en cas de conflit. Le monde connu était un monde ouvert, commun, partagé, où les échanges d'un bord à l'autre de la Méditerranée et à l'intérieur des terres étaient incessants. Et cela d'autant plus que si la Grèce est devenue ce qu'elle est, une grande puissance maritime et terrestre, c'est grâce à des noms grecs, à des barbares. C'est ce que ne cessent de rappeler les mythes. Selon ces mythes, deux jeunes étrangers sont à l'origine de ce qui a fait l'originalité et la force de la Grèce. Ils l'ont fait exister. Il s'agit d'une sœur et d'un frère, venus de très loin, venus d'Asie, avec un passage de leur famille par l'Afrique. La sœur, nous avons raconté son histoire la semaine dernière. Elle s'appelait Europe. C'est elle qui a donné son nom à notre continent. Mais pour cela, il a fallu qu'Europe soit arrachée à son pays natal, qu'elle soit contrainte de quitter sa famille, son lieu de naissance. Au départ, elle n'était pas européenne du tout, mais asiatique. Elle était la fille d'un dénommé Agénor, un roi de la Phénicie, un pays d'Asie, le Liban actuel. Cet Agénor lui-même n'était pas un asiatique de souche, mais un exilé d'origine africaine. Il était le fils de Poséidon et d'une princesse Libye, Libua, qui aurait donné son nom Libye au continent africain. Un jour, Europe, la fille de ce roi phénicien, a été exilée à son tour et a dû rejoindre l'Europe, la région du monde à laquelle elle devait donner son nom. Elle ne savait pas du tout où elle allait. Elle était partie contrainte, soumise à la volonté la plus puissante, la volonté de Zeus, le dieu suprême, qui par ses décisions met en ordre le monde. Zeus l'a enlevée parce qu'il l'avait repérée et la désirait. L'histoire est bien connue. Le dieu s'est métamorphosé en un beau taureau gentil, à la robe claire, lumineuse, et il a séduit la jeune princesse, qui sans méfiance est montée sur son dos. Zeus, le taureau d'un jour, est alors parti soudainement et a emporté la jeune fille en courant sur la mer. Il l'a déposée dans une grande île, en pleine mer, loin de tout, une île grecque, la Crète. Là, Zeus s'est uni à Europe et lui a fait des enfants, trois, Minos, Radamante, Sarpédon. Minos, le fils aîné, pour ne pas parler des autres, a été décisif pour toute la Grèce. Il est devenu roi de Crète. Son père, Zeus, est resté proche de lui. Il venait régulièrement lui inspirer des lois justes. Minos était ainsi le roi le plus juste qu'on pouvait imaginer. Par ailleurs, comme il était le fils d'une femme qui a traversé les vagues, il a fait de son île une grande puissance maritime qui envoyait ses bateaux partout, qui recevait des Grecs et des non-Grecs venus de partout. Ce succès a été un modèle pour toute la Grèce. Mais les mythes, comme d'habitude, ne sont pas naïfs. Ils savent faire voir ce qu'il y a d'ambigu, de fou, dans les grandes réussites humaines. Ce Minos, si privilégié des dieux, ce roi éclairé, juste et puissant, car intime de Zeus, son père, a déraillé. Il s'est pris pour Zeus. Il s'est cru tout permis. À cause de son orgueil irrépressible, de ses outrances, il est allé de malheur en malheur. Le mythe propose là une vraie analyse de la politique. Pour qu'une loi soit vraiment juste, elle ne peut venir des humains qui ont des capacités trop limitées, qui sont trop divisés entre eux. Il faut qu'un dieu souverain extérieur leur communique la loi. Le porte-parole du dieu peut alors édicter des lois correctes, justes, qui conviennent à l'ensemble de la communauté politique, puisqu'il a été inspiré par le dieu. Mais cela ne garantit absolument pas que lui-même, le mortel faible et éphémère qu'il est, devienne juste et tout-puissant. Minos n'est pas Zeus. Il peut lui arriver de faire n'importe quoi et de se planter. Minos a développé avec énergie la force maritime de son île. Et cherchant la puissance, il a trouvé plus fort que lui, Athènes. Ariane, la fille de Minos, a trahi son père en succombant au charme d'un Athénien, d'un héros magnifique venu de cette puissance maritime rivale. Ce bel Athénien se nommait Thésée. Il a débarqué en Crète. Grâce à Ariane, il a tué le fameux Minotaure, un monstre engendré par la femme de Minos, être hybride, à la fois homme et taureau. Puis, il a emporté Ariane sur son bateau. Mais ce Thésée ne sera pas plus vertueux que Minos. Il abandonnera vite Ariane sur une île, alors qu'elle l'avait tellement aidé. Ce qui n'empêchera pas Thésée d'épouser plus tard la sœur d'Ariane, Phèdre.
La fille de Minos et de Pasiphae.
Mais ça finira très mal. La Grèce, qu'Europe a rejointe par la volonté de Zeus, est un monde divisé, en crise, en conflit quasi permanent avec lui-même, comme l'a été l'Europe pendant toute son histoire, ou presque. Cette fille, Europe, avait un frère, Cadmos. Il allait également jouer un rôle décisif pour la Grèce. Pas côté maritime comme Europe, mais côté terre ferme. Pour une Grèce terrienne, bien enracinée dans son sol, dans sa terre, une Grèce autochtone. C'est plus que paradoxal. Un étranger phénicien, un barbare qui vient de loin, va fonder une autochtonie bien grecque, bien locale. Ce Cadmos était d'abord parti à la recherche de sa sœur Europe. Elle avait disparu, enlevée par Zeus, qui s'était changé en taureau. Leur père, le roi de Phénicie, est désemparé. Il envoie son fils Cadmos à la recherche d'Europe avec des menaces. S'il ne la retrouve pas, Cadmos ne pourra pas rentrer dans sa patrie. Il sera condamné à un exil perpétuel. Cadmos ne prend pas ses menaces à la légère. Il recherche Europe désespérément.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Souffrez que mes mots dépassent le peu de raison que je tienne quand vous laissez ma peine en disgrâce. Devant votre indifférence, je perds un amour immense pour lequel j'avais au départ, comme au jeu de hasard, chance. Long est le chemin qui me mène vers le nouveau monde, aussi longue est la nuit qui me fait penser à vous. Des opéras de misère vous feront gloire de l'enfer, où je vais tomber à genoux en découvrant le goût de l'absence. Thank you.
Pierre Judet de la Combe raconte les aventures de Canos, le frère parti à la recherche d'Europe.
Comme sa sœur, il quitte son pays natal, mais volontairement. Il n'y reviendra jamais. Il ne retrouvera jamais Europe. Il part vers l'ouest, vers la Grèce. On dit qu'il a rôdé un peu partout pour retrouver Europe. Il ne la trouve nulle part. Il n'ose pas rentrer chez lui en Asie, par peur de son père. Fatigué, Cadmos va consulter l'oracle d'Apollon à Delphes et il lui demande où est Europe. Le dieu lui répond qu'il doit tout de suite abandonner ses recherches. Europe appartient à Zeus, elle est intouchable. Et Zeus a d'autres projets pour Cadmos, ça ne se discute pas. Le dieu Apollon dit à Cadmos une chose bizarre. Il lui ordonne de suivre une vache qui n'a jamais tiré de charrue, qui a toujours été libre. Il la rencontrera en sortant du temple. Cette vache sera facilement reconnaissable. Elle aura de chaque côté une tache blanche, bien visible, ronde, comme une lune pleine. Cadmos sort du temple. Il tombe sur une vache qu'aucun gardien ne surveille. Elle porte deux lunes sur ses flancs et n'a jamais connu le joug. Il la suit. La vache l'emmène loin de Delphes. Puis un jour, elle s'effondre dans l'herbe, épuisée. Cadmos comprend qu'il est arrivé à destination. Il bénit ce lieu qu'il ne connaissait pas. Il sait qu'il va accomplir là de très grandes choses. Il avait reçu d'Apollon l'ordre de fonder une ville à l'endroit même où s'arrêterait définitivement cette vache remarquable. Décidément, les vaches ou taureaux jouent un rôle important dans cette famille. Un taureau a conduit Europe à travers l'univers marin jusqu'à l'île de Crète. Une vache conduit son frère Cadmos en pleine terre, dans un lieu qui, grâce à Cadmos, deviendra très célèbre. Cadmos appelle Béotie, la terre où la vache est tombée. Béotie, dans ce mot il y a bovin. La ville qu'il va fonder s'appellera Thèbes, la ville où la famille d'Œdipe verra le jour. Cadmos s'apprête à sacrifier la vache à Zeus ou à Athéna. Puisqu'il va fonder une ville, une grande cérémonie est nécessaire. Pour le moment, ce lieu étranger est sauvage, avec une forêt encore intacte, des rochers. Il faut commencer par trouver de l'eau qui servira pour les libations offertes aux dieux. Cadmos repère une grotte tout près, fermée par des branchages et de l'osier. L'eau semble y couler en abondance. Cadmos y envoie ses compagnons. Ils auront une mauvaise surprise. Dans cette grotte habite un monstre, un serpent énorme, qui appartenait au dieu de la guerre, le dieu Arès. C'est normal pour un lieu appelé à devenir prestigieux. Un lieu, ce n'est pas seulement une portion de l'espace, un morceau de terre disponible. C'est une puissance qui vient de loin, du fond de la terre. Il faut l'amadouer ou la dominer. Souvent, dans les mythes, c'est un serpent, l'animal terrestre par excellence, qui incarne cette puissance terrienne. En l'occurrence, il faudra être violent. Le serpent, à peine a-t-il entendu les compagnons de Cadmos s'approcher avec leur vase, qu'il surgit et dévore. Le poète latin Ovide raconte la mort de ces pauvres Phéniciens.
Dans la grotte est caché le fils de Mars, vipère, à la crête admirable, d'or. Ses yeux palpitent de feu, son corps gonfle de venin. Trois langues vibrent, ses dents sont en triple rangée. À peine les étrangers de Tyr sont-ils, d'un pas funeste, arrivés au bois, à peine un vase tombé dans l'eau a-t-il fait du bruit, que du fond de la grotte il sort sa tête, le serpent bleu azur, et lance d'horribles sifflements. Les vases ont glissé des mains, le sang a quitté les corps, un tremblement soudain a saisi les membres foudroyés. Lui, il tord en eux entortillés ses anneaux écailleux, se courbe, en un saut, en arc immense, toute une partie de son corps est dressée dans les airs légers. Il domine toute la forêt et il est grand, aussi grand, si on le voit entier, que celui qui sépare les deux ours. Vite, les Phéniciens qui préparent armes ou fuite, ou dont la peur empêche armes et fuite, ils les attrapent. Ici, ils mordent. Là, embrassent de près. Là encore, tuent d'un souffle, puanteur au venin mortel.
Les compagnons ne reviennent pas. Cadmos s'inquiète, il va voir. Il découvre les restes de ses amis et voit la bête.
Il entre dans la forêt. Il voit les corps tués. Vainqueur, au-dessus, au vaste corps, L'ennemi lèche d'une langue sanglante les tristes blessures.
Un combat long et impitoyable s'engage. Cadmos lance une pierre énorme contre le monstre, qui, bardé d'écailles, ne bronche pas. Cadmos attaque alors la bête avec sa lance. Le coup porte. L'animal devient furieux. Il arrache le fer figé dans ses flancs, non sans douleur.
Féroce de douleur, l'animal se retourne, tête sur le dos, voit la blessure et mord le bois fixé. À toute force, il le secoue de tous côtés, à peine l'arrache de son dos. Le fer blesse aux os. À ses premières fureurs s'ajoute une nouvelle. Sa gorge aux veines pleines gonfle. De la bave blanchâtre coule le long de sa gueule puante. La terre qu'il rase sonne sous ses écailles et le souffle qui sort, noir, de sa bouche de styx, tache les airs, les infecte.
Cadmos achève la bête en plantant son épée dans sa gorge. La victoire est totale. Le lieu appartient donc définitivement à Cadmos. Il pourra créer sa ville. Mais une prophétie terrible se fait entendre. Une voix surgit d'on ne sait où, dit qu'un jour Cadmos devra payer cette mise à mort. Il sera lui-même transformé en serpent. Il deviendra semblable au monstre qu'il a tué. La terre reprendra ce qu'on lui a pris.
Pendant que le vainqueur observe la taille du vaincu, on entend une voix. Pas facile de savoir d'où elle vient, mais on l'entend.
Alors, enfant d'Agénor, tu regardes un serpent mort ? Toi aussi, on te regardera, serpent.
Cadmus, longtemps pris d'épouvante, perd la tête et les couleurs. D'une peur glacée, ses cheveux se hérissent.
Mais on n'en est pas encore là. Avant sa métamorphose en serpent, Cadmos va accomplir des exploits extraordinaires. Il va fonder la ville des Calméens, qui portera le nom de Thèbes, cité fabuleuse. Après cette lutte avec le serpent, quelque chose d'extraordinaire se produit. La déesse Pallas Athéna arrive par les airs et demande à Cadmos d'arracher les dents de ce dragon, de labourer la terre et de les semer. Cadmos s'exécute, prend une charrue, creuse des sillons et sème les dents de la bête.
Et voici, glissant des airs du dessus, sa grande amie, Pallas. La voici. Elle ordonne que dans la terre labourée, on pose des dents de vipère. Commencement d'un peuple à venir. Cadmus obéit. Ouvre un sillon sous la charrue. Sème dans le sol, comme elle a dit, les dents, graines d'homme.
Ses dents se mettent à germer. Peu à peu sortent de terre des guerriers en armes.
Là, c'est trop pour le croire, les mottes de terre commencent à bouger. Hors d'un sillon, le bout de la pointe d'une lance paraît. Bientôt, des hochements de tête, casqués de cônes de couleur. Bientôt, des épaules, des poitrines, des bras chargés d'armes sortent. Une moisson armurée d'hommes croît. Comme au théâtre les jours de fête, quand on lève le rideau, des formes surgissent. D'abord montrent le visage, le reste peu à peu. Menées à un rythme paisible, elles se présentent. Et au bord de l'estrade pose les pieds. Effrayé par ce nouvel ennemi, Cadmus prépare ses armes.
Ces guerriers semés dans la terre, puis apparus à la lumière comme des épis de blé, se sont appelés les Spartes, c'est-à-dire les hommes semés. Mais la moisson n'a pas été pacifique. À peine sortis de terre, ils se mettent à se battre entre eux. Il y a plusieurs thèses sur les raisons de ce massacre réciproque. Un savant ancien, spécialiste des mythes, a passé en revue les explications possibles. Ou bien ces guerriers se sont entretués spontanément, ou bien Cadmos est intervenu en leur jetant des pierres.
Des hommes en armes qu'on appela les Spartes, les hommes semés, jaillirent de la terre. Ils se massacrèrent entre eux, les uns engageant volontairement le combat, les autres par manque de discernement. Mais l'historien Phérécide dit que Cadmos, voyant les hommes en armes poussés hors de la terre, lança contre eux des pierres et qu'ils se jetèrent dans la bataille, les uns pensant avoir été pris pour cible par les autres. Ils furent cinq à en réchapper.
Les cinq survivants de cette lutte acharnée devinrent les chefs des cinq grandes familles qui ont régné sur la ville de Thèbes. Ils étaient au sens strict des autochtones, c'est-à-dire issus de leur propre sol et non des étrangers. Il n'y avait pas plus thébains qu'eux. Ils étaient de souche, comme on dit, de vrais locaux, des gens du coin. La terre patrie, la terre de Thèbes, était leur origine réelle. il n'y en avait pas d'autre. Ces hommes semés, ces Spartes, représentaient un idéal très répandu dans les cités grecques. On était très fiers si on était né de sa propre terre, si on était autochtone. Les Athéniens se disaient autochtones car leur premier roi était né de la semence du dieu Héphaïstos, qui sur le site d'Athènes a fécondé la terre. Être né de sa terre, et pas à l'étranger, voulait dire qu'on était libre, qu'on ne dépendait de personne, et que c'était un devoir sacré de défendre la mère patrie, puisque c'était la vraie mère des citoyens. Les Athéniens n'étaient pourtant pas complètement dupes. Ils savaient que si la semence d'Héphaïstos a fécondé la terre athénienne, c'est qu'il avait raté son coup. Cette fécondation n'a rien de glorieux. Héphaïstos, le dieu boiteux, voulait posséder la déesse Athéna, la toujours effarouchement vierge. Il la poursuivait, mais elle ne voulait pas. Elle a su détourner la précieuse liqueur du dieu empressé.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe raconte comment Canos a fondé la ville de Thèbes.
Avec l'histoire de Calmos, fondateur à Thèbes d'une autochtonie par les dents d'un serpent, le mythe est encore plus ironique. S'il y a des Thébains autochtones nés de leur terre, c'est à cause d'un étranger lointain venu d'Asie. Il a été conduit par une vache sans maître dans un lieu inconnu dont il n'avait d'abord aucune idée. Et ces autochtones sont nés d'un monstre qui était déjà du coin, mais qui était terrible, destructeur. Ce monstre a commencé par déchiqueter les étrangers qui étaient entrés dans son repère. Pour qu'il soit fécond, avec ses dents arrachées et plantées en terre, pour qu'il fonde une nouvelle population, ce monstre a dû être tué. À peine nés, ces hommes semés répètent la violence dont ils sont issus. Leur premier geste est de se massacrer les uns les autres. On ne peut pas imaginer plus brutal comme autochtonie. Ces guerriers sortis de terre étaient tous strictement égaux entre eux, sans hiérarchie, étant tous nés d'une même rangée de dents. Ils représentent donc une idée égalitaire du pouvoir dans une ville, que ce soit le pouvoir d'un groupe privilégié dans les oligarchies ou du peuple dans une démocratie. Mais ces égaux étaient totalement incapables d'arrêter leur violence et d'instaurer l'harmonie entre eux. Le mythe se fait encore une fois profondément politique. Avec ce carnage mutuel, immédiat, des hommes semés et livrés à eux-mêmes, le mythe rappelle que le face-à-face, la confrontation spontanée et directe, sans médiation, ne suffit pas à créer une entente, à faire société. Pour que des individus, au départ strictement égaux, puissent s'entendre, il faut sortir de ce strict face-à-face. Il faut un élément intermédiaire, un troisième élément, accepté par tous. Ce peut être l'autorité d'un dieu, d'un roi ou un état, la loi. Pour l'instant, il n'y a encore rien de tout ça dans le champ semé par Calmos. La paix entre ces guerriers inattendus n'a pu s'établir que par une sorte de hasard, avec l'élimination de la plupart et la survie d'une petite poignée, 5 guerriers sur l'ensemble. Un poète nous dit que le dieu des combats, le dieu Arès, a épargné ses 5 en jouant au dé. Il fallait des survivants, sinon il n'y aurait pas eu de ville nouvelle. Mais cela s'est fait de manière aléatoire. Au moins, il y avait un début de population pour la ville. Thèbes pouvait commencer à exister. 5 familles nobles allaient se développer à partir des 5 survivants. Et Calmos lui-même allait fonder une famille qui était censée faire autorité et donner son unité à la nouvelle cité. Pour cela, Calmos épousa une femme extraordinaire, une déesse. Elle s'appelait d'un nom qui contenait une grande promesse. Son nom était Harmonie. Cette femme était la fille d'un couple de parents divins en apparence très opposés. Elle était la fille d'Aphrodite, la déesse de l'amour, et d'Arès, le dieu féroce de la guerre. Ces deux-là, beaux, jeunes et vigoureux, pleins de sève, étaient souvent ensemble, comme couple adultère ou comme couple légitime. Cela dépendait des légendes. Ils étaient en tout cas intimement liés. Avec leur fille Harmonie, ils montraient que la vraie concorde ne peut avoir lieu que si une tension, une discorde est d'abord là et se trouve ensuite dépassée, apaisée. Il n'y a pas d'amour sans guerre. C'est bien ce qui semblait s'annoncer avec l'histoire de Thèbes. Tout a commencé par une violence extrême, celle du dragon tapis dans sa grotte, puis dans le massacre mutuel des hommes semés. Mais cette violence était destinée à s'apaiser, puisqu'une ville allait être fondée sous le signe de l'harmonie. On pouvait rêver. Les noces d'Harmonie et de Calmos ont manifesté cette promesse de réconciliation, de paix. Ces noces furent grandioses, comme celle de Thétis, la déesse, avec le mortel Pélée, les futurs parents d'Achille. Les dieux sont venus en masse aux noces de Calmos et d'Harmonie dans un grand banquet, où ils prirent place à la même table que les mortels. Des cadeaux glorieux furent offerts. Calmos et Pélée, les deux époux mortels de 2 filles divines, Harmonie et Thétis, furent, paraît-il, les humains les plus heureux du monde. Même les muses le disent, elles qui sont venues chanter à leurs noces. C'est ce qu'en fidèle serviteur des muses chante le poète Pindare.
On dit que chez les mortels, ils eurent le bonheur le plus haut, eux qui entendirent chanter les muses, déesses au diadème d'or, l'un sur sa montagne, l'autre à Thèbes aux 7 portes, quand il épousa Harmonie à l'œil de vache, et l'autre Thétis, la fille glorieuse de Néré, dieu des bons conseils. Les dieux partagèrent le repas de l'un et de l'autre. Les deux virent les enfants royaux de Cronos sur leur siège d'or et reçurent les cadeaux des noces. La grâce de Zeus vint compenser leur douleur du début. Ils tinrent droit leur cœur, mais avec le temps...
Avec ces deux grandes noces qui rassemblent humains et divinités dans la même fête, avec les 9 muses présentes chaque fois pour célébrer l'événement, les 2 grands cycles de légendes grecques sont lancés. L'histoire de la guerre de Troie, avec les noces de Thétis et de Pélée. L'histoire des légendes thébaines, l'histoire de Dionysos, de la famille d'Œdipe, avec les noces de Cadmos et d'Harmonie. Autant dire tout de suite que ces noces fabuleuses, consécration de la félicité de 2 humains, Pélée et Cadmos, ne vont pas créer l'harmonie. Elles seront suivies de grands désastres.
Mais avec le temps,
dit Pindare, l'union n'a pas réalisé la promesse contenue dans le nom de l'épousée, Harmonie. Cadmos et Harmonie eurent des filles et un fils, qui ont tous et toutes connu des destins désastreux. Ce sont de tristes histoires que je vais juste mentionner ici. L'une de ces histoires est pourtant très glorieuse, mais cette gloire a été très cher payée. Une des filles d'Harmonie et de Cadmos s'appelait Sémélée. Zeus, infatigable, la convoitait et s'unissait avec elle. Héra, l'épouse de Zeus, très jalouse, a été plus rusée que son mari divin. Elle a suggéré à Sémélée de faire jurer par Zeus qu'il viendrait la voir dans son apparence normale de dieu de la foudre. Comme ça, pourront cesser les rumeurs qui disent qu'elle a une histoire banale avec un mortel quelconque, et pas avec le dieu suprême. Bêtement, le dieu jure, et doit donc montrer sa foudre. Son amante humaine est immédiatement carbonisée. Elle était enceinte. Zeus recueille l'embryon et l'enfouit dans sa cuisse, pour une fin de grossesse masculine. Ce sera Dionysos. Sémélée sera quand même à la fin reconstituée à partir de ses cendres et immortalisée. Dionysos sera élevé en Asie, d'où il reviendra plus tard vers Thèbes. Ce sera le malheur d'une autre fille de Cadmos et d'Harmonie, Agave. Cette Agave eut avec l'un des hommes semé un fils, Pentheus, dont le nom veut dire le deuil. Il régna sur Thèbes. Après Cadmos, il était le roi de Thèbes quand Dionysos revint d'Asie et voulut établir ses cultes dans la ville de sa mère. Pentheus ne voulut pas en entendre parler. Il persécuta le dieu qu'il prenait pour un étranger et charlatan, un séducteur dangereux. Dionysos le punit en le faisant déchirer morceau par sa mère Agave. Même tristesse pour la fille aînée, Autonoé, dont le fils Actéon, un grand chasseur, fut déchiré par ses propres chiens. Il avait eu le malheur de voir Artémis, la déesse de la chasse, sa déesse préférée, se baigner nue. Artémis le transforma en cerf. Les chiens ne le reconnurent pas et le massacrèrent. Et Ino, une autre fille, fut frappée de folie par Héra parce qu'elle avait accueilli le tout jeune Dionysos. Toutes les filles d'Harmonie et de Cadmos connurent le malheur. Quant au seul garçon né du couple, Polydoros, c'est l'ancêtre de Laios et d'Œdipe, qui l'un et l'autre ne furent pas très heureux comme époux et comme père. La fin de la vie de Cadmos et d'Harmonie ne sera pas heureuse. Cadmos, le tueur de serpents, deviendra serpent avec sa femme. Lui, le barbare, venu créer une cité grecque grandiose, magnifique, Cadmos le Grand, redeviendra barbare. Le dieu Dionysos, qui est le fils de sa fille Sémélée et le Zeus, lui prédit une fin de vie dominé par la violence. Cadmos va avec des barbares attaquer et ravager la Grèce, dit le dieu.
Tu changeras de forme. Tu seras dragon. Ta femme sera un animal. Elle prendra la robe d'un serpent. Harmonie, la fille d'Arès, que simple mortel, tu as eu pour femme. Tu conduiras un attelage de bœufs avec ta femme, à la tête d'une armée de barbares, comme te le dit un oracle de Zeus. Nombreuses, les villes qu'avec une armée immense, tu ravageras.
Fondateur barbare d'une ville grecque, Cadmos deviendra le destructeur barbare de villes grecques. On ne quitte pas la violence. Le poète latin Ovide, poète des amours, ne se résigne pas à ce destin sanglant. Pour lui aussi, Cadmos et Harmonie devaient être transformés en serpents. Mais cette transformation est due à un remords de Cadmos. Après une longue vieillesse d'errance et de fatigue avec son épouse, il se demande si ces fatigues ne sont pas dues à la mort du serpent d'autrefois. Cadmos demande pour expier à redevenir comme lui, les dieux le lui accordent. Il devient reptile.
Lourds de malheurs et d'années, tous deux revoient les destins premiers de leur maison, relisent leurs peines.
Était-il sacré ce grand serpent, traversé de ma lance, dit Cadmus, quand, après Sidon, j'ai répandu sur le sol, en nouvelle semence, ses dents de vipère? Si le souci des dieux est de le venger, à force de colère tenace, pitié, que je sois serpent, tendu en un long corps.
Il dit, et aussitôt, serpent, s'allonge en un long corps. Il sent pousser sur sa peau dure les écailles, son corps noir est tacheté de gouttes bleues. Il tombe sur la poitrine, tête en avant, et joint en une seule, peu à peu, ses jambes se tiennent en pointe arrondie. Restent les bras, et ces bras qui restent, il les tend. Et des larmes coulent sur son visage, jusque-là humain.
« Viens, ma femme, viens, ma très malheureuse, dit-il. Tant qu'il reste quelque chose de moi, touche-moi, reçois ma main. Tant qu'il y a une main, le serpent n'a pas tout pris. »
Il veut parler plus, mais sa langue, soudain, en deux morceaux se fend. Les mots pour parler ne viennent plus. Chaque fois qu'il est prêt à lancer ses plaintes, il siffle. Cette voix, la nature la lui a laissée.
Sa femme, Harmonie, le rejoint dans sa métamorphose. Les deux serpents sont tendres.
Il lèche le visage de sa femme et sur le sein chéri bien connu, il va, donne des baisers, cherche comme avant le cou. Tout le monde est terrorisé, mais elle caresse le cou baveux du serpent crêté. Soudain, ils sont deux à ramper, à rouler, à descendre aux cachettes de la forêt d'à côté. Maintenant, ils ne fuient plus l'homme ni ne le blessent. Ce qu'ils ont été, ils s'en souviennent, les doux serpents.
Les dieux ont finalement pitié d'eux. Ils vivent toujours, tous les deux, une immortalité heureuse aux Champs-Élysées.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Cinglé. C'est lamentable que moi d'avance.
Pierre Judé de Lacombe nous parle de Kalmos, qui a apporté l'écriture phénicienne en Grèce.
Thèbes, la ville grecque fondée par un héros étranger venu d'Asie, Kalmos, est devenue grandiose, célèbre. Thèbes aux sept portes, une ville prodigieuse, de plénitude, de richesse, de gloire, mais aussi une ville qui suscite les conflits les plus violents, en interne, comme vis-à-vis de l'extérieur. Une ville condamnée, comme est condamnée la ville fabuleuse de Troie. Étroitement serrée sur elle-même, sur son origine locale qui se veut exclusive, Thèbes va s'autodétruire. Elle ne va pas cesser de s'opposer à elle-même. Œdipe, issu de la lignée de Cadmos et des hommes semés, va tuer son père Laios et épouser sa mère. Ses fils, Étéocle et Polynice, vont s'entretuer, exactement comme se sont entretués les guerriers nés des dents du dragon. Modèle grec d'égalité, d'autochtonie, de réussite, Thèbes va imploser et sera ravagée par d'autres Grecs venus l'assiéger. Les mythes qui racontent tout cela ne croient pas aux idéaux politiques. Ils rappellent la violence qui accompagne nécessairement les communautés humaines, incapables de tenir par elles-mêmes sans l'action extérieure des dieux.
Jean Bollack, helléniste.
Thèbes est une Jérusalem particulière. C'est une ville comme il n'y en a pas d'autre en Grèce, dans la mythologie grecque. Il n'y a pas de Thèbes, il n'y a personne de Thèbes qui soit allé avec les chefs grecs se battre devant Troie. Il n'y en a pas. C'est une ville quasi mystique, un peu comme, c'est pas par hasard que je compare ça avec cet enclos, avec Jérusalem.
C'est
avec cette porte construite par des architectes divins. C'est quelque chose de tout à fait fermé, c'est-à-dire d'endogame. Évidemment, c'est une concentration de puissance qui peut faire peur aux dieux, tellement c'est divin.
L'action mythique de Kalmos, le phénicien, a aussi pris un tout autre visage. Elle ne s'est pas limitée à la fondation d'une ville grecque bien locale, enracinée dans sa terre et condamnée à être en conflit permanent avec elle-même et avec les autres villes grecques. Kalmos, l'étranger venu de loin, exilé d'un pays du Levant, la Phénicie, a aussi apporté à la Grèce le moyen d'instituer, de renforcer son unité. Il n'a pas agi seulement pour une ville particulière, Thèbes, ville bien close dans ses murailles légendaires et souvent en lutte avec les autres. Il a agi aussi pour toutes les cités grecques. Il va faire que la Grèce pourra être une large communauté. Il va, disent les légendes, apporter à tous les Grecs un moyen de communication extraordinaire, l'écriture. Avant l'arrivée de Kalmos, ce barbare oriental, la Grèce était plutôt ignorante, balourde, dit-on. Kalmos, le phénicien, va la rendre moins inculte. Hérodote, l'historien du 5e siècle avant notre ère, raconte cet apport culturel nouveau.
Ces phéniciens venus avec Kalmos introduisirent chez les Grecs, en s'établissant dans ce pays, beaucoup de connaissances, entre autres celles des lettres que les Grecs, autant qu'il me semble, ne possédaient pas auparavant. Ce furent d'abord les lettres dont tous les Phéniciens aussi font usage. Puis, à mesure que le temps passait, en même temps qu'ils changeaient de langue, les Cadméens changèrent aussi la forme des lettres. La plupart des régions d'alentour étaient habitées à cette époque par des Grecs de race ionienne. Ils empruntèrent les lettres aux Phéniciens qui les leur avaient enseignées et les employèrent légèrement modifiées. Et en les employant, ils les firent connaître, comme c'était justice, puisque c'étaient les Phéniciens qui les avaient introduites en Grèce, sous le nom de lettres phoenikeia, de lettres phéniciennes.
L'écriture phénicienne ne fut en fait pas du tout introduite en Grèce aux temps mythiques, lointains et brumeux de la fondation de Thèbes par Kalmos. D'après les inscriptions connues, on date son usage pour noter la langue grecque d'une époque beaucoup plus récente, l'époque supposée d'Homère, au début du 8e siècle avant notre ère. Mais comme il fallait une origine pour cet usage nouveau apporté du dehors, on l'a attribué au mythique Kalmos, le phénicien. Cet usage grec de l'écriture phénicienne était une grande révolution. Les lettres sémitiques des phéniciens notaient exclusivement les consonnes. En passant en Grèce, elles en notaient aussi bien les consonnes B, G, D, bêta, gamma, delta, etc. que les voyelles A, E, I, O, U, alpha, epsilon, iota, upsilon. Cela veut dire que tous les sons d'un mot étaient notés. On pouvait donc retrouver le son complet du mot derrière les lettres écrites. alors que si on ne note que les consonnes, il faut savoir quelle voyelle non notée compose aussi le mot pour être capable de le prononcer à partir de ce qui est écrit. Il faut donc avoir déjà entendu le mot pour le reconnaître. Par contre, avec une écriture qui note tout, une écriture proprement alphabétique, comme celle que les Grecs ont élaborée à partir de l'écriture phénicienne, on peut déchiffrer le mot, même si on ne le connaît pas. On n'avait pas besoin que quelqu'un lise pour vous ce qui est écrit. Si on possédait la connaissance des lettres, ce qui évidemment n'était le cas que d'une petite minorité, on pouvait tout lire. Comme la langue grecque était composée de parlers différents, aux sonorités différentes, l'écriture alphabétique, son par son, consonnes et voyelles, permettait de tout noter et rendait les différences lisibles, compréhensibles. L'écriture, pour ceux qui la connaissaient, donnait un accès ouvert, facile et bien maniable à une communication généralisée dans toute la Grèce. Cadmos l'étranger a ainsi apporté en Grèce avec l'écriture un moyen solide, clair, de communication pour tous les Grecs. La figure mythique de Cadmos résume bien ce qui fait la particularité de la Grèce dans son double aspect. Lui qui arrivait de l'extérieur dans une terre inconnue, il a fondé une ville autochtone, bien implantée dans sa terre locale et risquant perpétuellement, du coup, d'être en conflit avec d'autres cités bien locales comme elle. Mais il a aussi apporté par l'écriture un lien universel dans les limites du monde grec, reliant tous les Grecs, où qu'ils soient. C'est sans doute là une spécificité de la Grèce. Une Grèce double. D'une part, une division politique très nette entre une foule de cités bien délimitées et différentes. Il y en eut plus d'un millier. Division qui peut produire d'immenses et d'interminables conflits entre cités se disant autochtones. Et d'autre part, la cohésion d'un monde commun, fortifié par la langue et par sa diffusion au moyen d'une écriture publique et claire. Nous verrons comment cette Grèce double s'est débrouillée face à une invasion lancée par un pouvoir qui se voulait monolithique, autoritaire et massif. L'invasion perse, lancée depuis l'Asie au 5e siècle avant notre ère, par Xerxès, grand roi de Perse. Il a mobilisé une immense armée, issue de toute l'Asie, contre l'Europe et la Grèce. Nous aurons un témoin direct pour comprendre ce conflit, le poète Eschyle. Il a combattu les armes à la main cette invasion en prenant plusieurs blessures. Il a écrit sur cet événement une pièce de théâtre prodigieuse, Les Perses.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Guillaume Ledu et le mixage par Benjamin Vignal. Bonne journée sur France Inter.